Bonjour à tout le monde, vous pouvez vous asseoir, prenez place. Soyez bienvenus dans notre service francophone ce matin. Je m'appelle Ruben et je vais partager avec vous ce matin la parole de Dieu. Avant ça, quelques annonces. Vous voyez que les chaises sont un peu vides ce matin. C'est parce qu'une partie de notre église profite d'un week-end près de Durbuy, un week-end de retraite. Donc certains ne sont pas là, mais nous avons des nouveaux aussi. D'autres nous ont rejoints. Et j'aimerais demander à London Sindes, juste si vous voulez rester ici, pour vous présenter. Donc London et Sydney nous viennent des États-Unis, de Life Point aux États-Unis. Et ils devraient nous rejoindre ici à l'église de Life Point Bruxelles en tant que missionnaires à partir de janvier de l'année prochaine. Donc j'aimerais que nous prions aussi pour vous, pour les visas et pour que vous puissiez venir nous rejoindre ici. Je vais prier pour vous. Oui Père, merci pour ces moments que nous vivons ensemble. Merci parce que tu as grandi ta communauté. Merci parce que tu envoies des ouvriers. Merci pour London et Sydney qui sont là ce matin, qui nous font la joie de louer ton nom, qui nous font la joie de participer au groupe de musique ce matin. Et nous te prions pour que tu puisses permettre qu'ils puissent nous rejoindre ici, que le processus des visas se passe comme nécessaire et qu'il puisse être une bénédiction pour notre assemblée ici. Je te prie cela au nom de Jésus. Amen. Merci. Et puis encore une autre annonce pour dimanche prochain. Donc dimanche prochain, nous allons reprendre notre série dans 1 Samuel. Et puis il y aura aussi à la fin le repas d'église. Donc dimanche prochain, le repas d'église. Normalement, c'est Éléonore qui est en charge de ça. Donc n'hésitez pas à la contacter cette semaine pour le repas d'église de dimanche prochain. Et alors ce matin, on voulait aussi partager un temps de la parole de Dieu ensemble et partager un texte qui est commun à ce que l'autre partie de l'Église discute ce matin à Durbuy. Il s'agit d'un texte sur le paradis, d'un texte sur la destinée qui est réservée aux chrétiens. Et pour cela, nous allons nous plonger dans la lettre de Pierre, 1 Pierre au chapitre 1. Alors, si vous avez vos Bibles ce matin, nous allons ouvrir à 1 Pierre, au chapitre 1, et nous allons faire une lecture suivie de, cette première, de ce premier chapitre de l'épître de Pierre. Alors, Pierre, c'est qui ? Pierre, c'est l'un des 12 apôtres de Jésus. Pierre, c'est celui qui a trahi Jésus. On s'en souvient, il a renié par 3 fois Jésus, la nuit de sa mort. Mais c'est aussi ce Pierre que Jésus, sur lequel Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». C'est un futur pilier de l'Église. Et ce Pierre qui écrit ici, il est souvent dépeint comme un homme naturel, un homme simple, parfois impulsif. Vous vous souvenez peut-être, c'est celui qui a tranché l'oreille du serviteur, du grand sacrificateur à l'arrestation de Jésus. C'est aussi celui qui, quand Jésus était sur la barque, Pierre, il est sorti de l'eau et il a voulu aller vers Jésus. Il a commencé à marcher sur l'eau. Et dès qu'il a détourné les regards de Jésus, il a commencé à couler. Ce Pierre, il avait une foi ardente. Il avait une grande fidélité qui le poussait à agir et qui le poussait à rester proche de Jésus. Il est resté très proche, d'ailleurs, de Jésus, avec un réel désir de le suivre. Alors, il s'adresse ici à des chrétiens. On va lire la première partie, mais je vous donne un peu le contexte. Il s'adresse à des chrétiens qui sont étrangers et dispersés. Ils sont loin de chez eux. Ce sont des chrétiens qui sont dans la Turquie actuelle. Ils sont partis de Jérusalem, ils sont certainement partis de Rome aussi, et ils sont partis dans la Turquie actuelle. Donc on est ici, au niveau chronologique, environ la lettre de Pierre, il a écrite environ 60 ans après Jésus-Christ. C'est l'époque aussi où il y avait à Rome un empereur très connu, sous le nom de Néron. Et Néron, c'était un homme violent, c'était un homme qui a persécuté les chrétiens, c'était un homme qui a peut-être, le disent certains historiens, déclenché le grand incendie de Rome, qui a duré pendant 5 jours, où Rome a complètement brûlé, puis ensuite Néron a accusé les chrétiens, et s'en est suivie une grande période de persécution. Et donc les chrétiens sont partis, ils ont été chassés de chez eux, ils ont été persécutés, ils sont partis, ils sont arrivés en Turquie, et Pierre leur écrit cette lettre comme un message d'espérance, en disant, là où vous êtes, malgré ce qui se passe, il y a un message d'espérance pour vous. Alors on va lire ensemble la première partie du texte. Je vais lire les 3 premiers versets qui parlent de l'héritage que chaque chrétien, chaque chrétienne a au ciel. 1 Pierre, vous pouvez suivre avec moi. 1 Pierre chapitre 1, les versets 1 à 5. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et nous allons, Lucas a lu ce matin la seconde venue de Jésus, sa résurrection et sa seconde venue. Notre héritage est au ciel. J'ai lu récemment qu'un homme qui avait, il y a 12 ans, acheté des bitcoins. Vous savez ce que c'est maintenant les bitcoins, la crypto-monnaie. Il y a 12 ans, il avait acheté ses bitcoins, il en avait acheté 1000. Et pour une valeur de 800 000 euros, il les a réactivés maintenant. Et évidemment, maintenant, le taux a monté. Maintenant, c'est 1000 bitcoins valent 117 millions d'euros. Et donc, ça a affolé tous les marchés lorsque cette personne a réactivé son compte et a récupéré ses 117 millions d'euros. Mais vous connaissez peut-être aussi l'histoire de cet Anglais, ingénieur, James Howells, qui lui aussi, il y a 12 ans, lui, il avait 8000 bitcoins dans un disque dur. Mais en faisant le ménage, il y a 12 ans, le disque dur est parti à la poubelle. Et de la poubelle, dans la décharge publique du village. Et aujourd'hui, ces bitcoins valent 900 millions d'euros. Le seul problème, c'est qu'ils sont enfouis sous terre dans la décharge publique. Et ça fait maintenant plusieurs années que James Howells essaie de récupérer son disque dur. Il a fait des démarches auprès de la mairie pour fouiller la décharge publique. Il a fait appel à la NASA pour repérer le disque dur dans la décharge. Et il consacre maintenant toute son énergie et toutes ses économies à retrouver le disque dur enfoui dans la décharge publique. Un disque dur qui vaut 900 millions d'euros. Alors, quelle est la morale de ces deux histoires? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux histoires? Peut-être acheter des bitcoins, ça peut être. Ou faites attention quand vous faites le ménage. Non, je pense que la morale de cette histoire, c'est que tout, absolument tout, sur cette terre va disparaître. Même ce qu'on pense être de la crypto-monnaie, même ce qu'on pense être incorruptible, tout, absolument tout, va disparaître. Il y a deux choses intéressantes ici dans la manière dont Pierre appelle ses chrétiens. Il les appelle d'abord dispersés et étrangers. Et donc, on a dit qu'il s'adresse aux premiers chrétiens, mais à nous aussi. Cette lettre, elle est pour nous aussi. Et la Bible est claire sur le fait que tout va disparaître. Chrétien ou non chrétien, maison ou pas de maison, travail ou pas de travail, tout va disparaître. Et la Bible est claire aussi sur notre destinée, que nous soyons non-chrétiens ou que nous soyons chrétiens. Et lorsque nous sommes chrétiens, la Bible est claire que nous appartenons au royaume de Dieu, ce qu'a lu aussi ce matin Lucas, nous appartenons au royaume de Dieu. Et nous voyons que nous sommes passagers sur cette terre. La terre est pour nous chrétiens un endroit de passage. Et on le voit dans le peuple de Dieu. Dès la Genèse, quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit qu'il sera étranger dans la nouvelle terre. Il sera étranger avant de rejoindre le pays promis. Alors si vous êtes chrétien ce matin, vous faites partie de la famille de Dieu. Vous faites partie de ce royaume. Et comment devient-on membre de la famille de Dieu? C'est simple. Premièrement, on entend l'évangile. Deuxièmement, on confesse nos péchés. Et troisièmement, on met notre foi en Jésus-Christ. Et dès lors, nous sommes nés de nouveau et nous appartenons à ce royaume de Dieu dans lequel l'héritage dont on vient de parler nous est promis. Alors Pierre appelle ces chrétiens étrangers et dispersés, mais il les appelle aussi choisis, choisis par Dieu conformément à la préscience de Dieu le Père. Alors la préscience, ça veut dire quoi? La préscience, ça veut dire ce que connaissait Dieu d'avance, son plan, ce qu'il avait prévu d'avance pour nous. Et comprenez que Dieu vous a choisi d'avance pour que vous soyez sauvés, pour que vous deveniez ses enfants adoptifs. Si vous êtes chrétien ce matin, vous êtes étranger sur cette terre, mais vous avez été choisi par Dieu, non pas pour vivre sur la terre, mais pour vivre au ciel, pour vivre éternellement dans la présence de Dieu, dans la présence avec Jésus. La conséquence de tout ça, c'est que, chrétiens, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ du royaume de Dieu. Et donc Pierre, au verset 4, il parle d'un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, et qui nous est réservé dans le ciel. Et c'est bien comme ça que fonctionne un héritage, n'est-ce pas? Si vous avez la grâce d'avoir un appartement que vous avez acheté ou une maison que vous avez achetée et que vous pensez un jour donner en héritage à vos enfants, bien vos enfants, ils vont devoir attendre. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont pouvoir profiter de la maison. C'est une fois que vous n'êtes plus là que l'héritage leur sera donné. Et pourtant, l'héritage, cette maison, elle est bien à vous. Ils l'auront un jour, normalement. Et donc, l'héritage peut être lointain, mais l'héritage est certain. L'héritage peut être lointain, mais néanmoins, il est certain. Et c'est bien ça qu'on appelle l'espérance chrétienne. C'est celle de pouvoir profiter d'un monde nouveau, futur, et véritablement réconcilié avec Dieu. Alors, quelques mots sur le paradis. Comment c'est le paradis? Comment ça se passera, la vie au ciel? On s'est peut-être tous posé la question un jour, est-ce qu'on va avoir des ailes et on sera assis sur un petit nuage? Je ne sais pas, en tout cas, la Bible parle du paradis. La Bible en parle notamment dans le livre de l'Apocalypse. Je vais vous donner quelques notions ici de ce que dit l'Apocalypse sur le paradis. L'Apocalypse parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Un royaume où il n'y a plus de larmes, plus de douleurs, plus de tristesse, plus de séparation, car la mort sera vaincue. L'Apocalypse, vous pouvez lire, hein, c'est l'apôtre Jean a eu le privilège de voir et de raconter sa vision de ce que sera le ciel. Il a témoigné de la nouvelle terre, du nouveau ciel, qui était rempli de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Dans ce nouveau ciel, il y a la présence de Dieu. Il n'y a plus de nuit, car le Seigneur lui-même est la lumière. Il n'y a plus besoin de soleil, il n'y a plus besoin de lune. Et ici, Pierre, dans notre texte, il ne parle pas de ce que l'héritage sera, mais il parle de ce que l'héritage n'est pas. Alors pourquoi parler comme ça? Parfois, c'est plus facile à comprendre de dire quelque chose que ce n'est pas quelque chose plutôt que quelque chose que c'est quelque chose. Par exemple, si je dis à Calen, le salon n'est pas une aire de jeu. Voilà, ça veut dire le salon, c'est autre chose, mais ce n'est pas une aire de jeu. Ou ta sœur n'est pas un sac de boxe. Ça veut dire elle est autre chose, mais elle n'est pas un sac de boxe. Donc parfois, il est plus facile d'accentuer la fonction précise de quelque chose en disant ce que ce n'est pas. Et donc l'héritage, ce n'est pas quoi ? L'héritage, ce n'est pas quelque chose qui peut se détruire. Ce n'est pas quelque chose qui peut se souiller. Et ce n'est pas quelque chose qui peut perdre son éclat. Rappelons-nous ici que Pierre s'adresse à des chrétiens qui ont tout perdu. Ils sont partis de chez eux, ils ont fui leur maison. Ils ont peut-être fui l'incendie de Rome, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur terre. Leur héritage a été emporté par les flammes. Et Pierre leur rappelle qu'ils sont au bénéfice d'un autre héritage. Un héritage éternel qui ne peut pas se détruire et qui ne peut pas être emporté par les flammes. Alors peut-être ce matin, vous aussi qui êtes ici, vous avez perdu quelque chose de précieux. Peut-être vous avez dû partir de votre pays. Peut-être vous avez dû laisser votre maison, votre famille. Peut-être vous avez perdu quelqu'un de cher, un frère, une mère, une sœur. Peut-être vous avez perdu toutes vos économies, comme James Howells et ses bitcoins. Mais rappelez-vous qu'en acceptant Jésus comme votre sauveur, vous avez aussi accès à cet héritage qui ne peut ni se détruire et ni perdre de sa valeur. Mais donc, comme on l'a dit, cet héritage, il est pour plus tard. Et nous pourrons en profiter lorsque nous serons avec Dieu. Et en attendant, nous vivons quand même sur cette terre. Et nous savons que sur cette terre, ce n'est pas comme au ciel. La terre est corrompue depuis que le mal est entré dans le monde. Le mensonge, la violence, l'égoïsme, les tentations, les épreuves sont partout autour de nous. Et alors, dans une deuxième partie de son texte, Pierre s'adresse aux chrétiens et les encourage à persévérer là où ils sont, dans l'espérance du royaume de Dieu à venir. Persévérons dans les épreuves. Je vais continuer à lire deux versets, les versets 6 et 7. Versets 6 et 7. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous connaissez Snoopy ? Ma sœur m'a envoyé une petite image de Snoopy cette semaine. Alors Snoopy, ce n'est pas un grand philosophe, mais il dit des choses intéressantes. Et on le voit assis à côté de Charlie Brown. Et Charlie Brown lui dit, un jour, nous allons tous mourir. Et Snoopy lui répond, oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Et je pense que cette citation, elle nous rappelle que nous sommes sur terre tous les jours et nous vivons sur terre tous les jours, avec les joies, avec les difficultés, avec les épreuves, avec les tentations, avec les réconciliations. Il y a plein de choses qui peuvent nous apporter de la peine. Et j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. La moins bonne nouvelle, c'est que les épreuves font partie de la vie et nous les traversons tous. Que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, personne n'est épargné. Les chrétiens auxquels Paul s'adressait ici étaient eux-mêmes persécutés. Ils étaient exilés, loin de leur patrie. Et peut-être que vous aussi ce matin, vous vous sentez exilé, loin de chez vous, et vous comprenez ce sentiment. Et en plus, ces chrétiens, ils passaient par des difficultés, par des persécutions. Et nous aussi, aujourd'hui, chrétiens, il y a des difficultés. Il y a aussi des persécutions. Pas plus tard que la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité en France, mais il y a un reportage dans Envoyé spécial, qui est une émission française qui va, investiguer sur certains sujets. Et puis là, le sujet était sur les évangéliques, les chrétiens évangéliques de France. Et le titre était « Des chrétiens évangéliques, pas si angéliques ?» Point d'exclamation. Et donc tout le reportage, en fait, montrait, caricaturait les chrétiens évangéliques sur le rigorisme religieux et sur ce que les évangéliques tentaient, en fait, de faire pour témoigner de leur foi. Et donc, évidemment, les protestants chrétiens évangéliques de France ont été déçus par ce reportage. Le CNEF, qui est le centre, le comité national des chrétiens évangéliques de France, a fait un communiqué que vous pouvez trouver sur leur site. Mais voilà, vous voyez qu'il y a de toute manière toujours des persécutions, même encore aujourd'hui, de diverses manières. Et vous voyez ici comment Pierre rappelle la perspective éternelle. Il nous montre la perspective éternelle de notre héritage pour que nous vivions mieux ou pour que nous vivions d'une manière vivante les épreuves temporaires de notre vie sur terre. Il y a un objectif vers lequel nous allons. En attendant, nous avons à vivre sur cette terre. Pierre fait une comparaison intéressante. Il compare la foi chrétienne à de l'or que l'on soumet à l'épreuve du feu. Alors l'or, c'est intéressant parce que l'or est utilisé de deux manières. Le feu est utilisé avec l'or de deux manières. Tout d'abord, traditionnellement, on met l'or dans le feu. Pourquoi ? Parce que ça fait fondre l'or, ça fait remonter les impuretés, et alors on peut enlever les impuretés qui remontent à la surface. On est obligé de fondre l'or pour en retirer les impuretés. Première chose, première application. Deuxième application du feu avec l'or, on approche l'or du feu, d'une flamme, et on peut observer que si ça ne change pas de couleur, c'est de l'or authentique. Vous voyez, une deuxième épreuve. On approche l'or du feu, si elle ne change pas de couleur, c'est de l'or authentique. Et comme l'épreuve du feu révèle la vraie nature de l'or, les épreuves de la vie révèlent la vraie nature de notre foi. Je vais redire ça. Comme l'épreuve du feu révèle la vraie nature de l'or, les épreuves de la vie révèlent la vraie nature de notre foi. Job, qui a beaucoup eu d'épreuves dans sa vie, a dit cela en Job 23, verset 10. Il sait néanmoins, il parle de Dieu, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mise à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Lorsque Dieu m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Dans son malheur, Job avait la certitude qu'il sortira grandi de son malheur. Non pas parce qu'il était bon, non pas parce qu'il pouvait faire quelque chose, qu'il méritait quelque chose, mais par la seule grâce de Dieu et la promesse que Dieu tient tout dans sa main. Alors une application pour nous par rapport à ça, j'aimerais vous poser la question, quelle est la dernière fois que vous êtes passé par l'épreuve ? Réfléchissez à la dernière fois que vous avez été mis à l'épreuve. Et est-ce que cela vous a plutôt éloigné de Dieu ou plutôt rapproché de Dieu ? Est-ce que cela a plutôt renforcé votre foi ou est-ce que cela l'a plutôt détruite ? Dans l'épreuve, nous apprenons trois vérités importantes. Et c'est pour ça que l'épreuve est nécessaire. La première vérité que nous apprenons dans l'épreuve, c'est que nous sommes faibles, tout simplement. Nous n'avons rien pour nous, nous sommes faibles. Donc la deuxième vérité, c'est que nous avons besoin d'aide. Et la troisième vérité, c'est que seul Dieu peut nous apporter son aide. Et regardez comment se termine le verset 7. L'épreuve du feu aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Et c'est vrai que lorsque nous sortons de l'épreuve, la seule chose que nous voulons faire, c'est courir à Jésus, le remercier, lui rendre gloire pour ce qu'il nous a permis de traverser, mais encore plus pour ce qui nous a permis de sortir victorieux de l'épreuve. Je continue au verset 8. « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Lorsqu'on met notre confiance en Jésus, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous faisons un acte de foi. Nous croyons en Jésus sans le voir physiquement, n'est-ce pas? Alors bien sûr, on a la Bible, on a la parole de Dieu, bien sûr, on a l'Esprit de Dieu qui nous parle, mais nous ne voyons pas physiquement Dieu. Mais nous savons aussi que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les choses qu'elles n'existent pas. Il y a plein de choses autour de nous que nous ne voyons pas et qui existent. L'univers est rempli de choses que nous ne voyons pas et qui existent. Ce qui existe n'est pas déterminé par ce qu'on voit. Il y a une réalité au-delà de ce que nous voyons. J'aimerais résumer un peu là où on en est pour ceux qui prennent des notes. Nous avons vu que un héritage attend le chrétien au ciel. Nous avons vu que l'épreuve fortifie notre foi. Et nous allons voir maintenant un dernier point sur notre attitude, l'attitude que nous devons avoir. Je vais lire à partir du verset 13 et jusqu'au verset 21. C'est la dernière partie du message. Verset 13. « C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Vous serez saints, car moi je suis saint. » Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » J'étais au verset 22. Verset 23. « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Donc dans cette troisième partie ici, Pierre nous donne la conduite à tenir en attendant notre héritage. Et j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez aujourd'hui un héritage de 100 millions d'euros qui vous attendait? Peut-être c'est le cas, je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous feriez? Imaginez, 100 millions d'euros qui vous attendent. Peut-être vous arrêteriez de travailler, peut-être vous feriez tout le temps la fête, peut-être vous dépenseriez tout ce que vous avez, sachant que de toute manière, vous allez recevoir quelque chose. Vous avez peut-être vu, vous rappelez des publicités du loto, où on voit un homme qui a gagné le loto et qui va remettre sa démission à son patron. Et il le fait toujours de manière complètement décalée, puisque de toute façon, il s'en fiche, il a réussi à toucher ses 100 millions d'euros. Mais ici, Pierre nous appelle à vivre l'attente de l'héritage d'une manière tout à fait différente et peut-être même surprenante. Peut-être qu'on s'attendait à ce que Pierre dise aux chrétiens, « Hey, puisque de toute façon, vous avez votre héritage au ciel, qui vous attend. Faites ce que vous voulez, faites la fête, dilapidez votre argent, ne vous préoccupez pas des autres. Mais en fait, Pierre, exhorte les chrétiens à toute autre chose ici. Et c'est ce que nous voyons dans le premier verset, verset 13. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Il est toujours intéressant, quand on fait l'étude de la Bible, de regarder les mots de connexion. N'est-ce pas ? Ils ne sont pas là par hasard. Et ici, le verset 13 commence par « c'est pourquoi ». Et donc cela ouvre souvent à un nouveau thème ou à une nouvelle partie de l'idée de celui qui écrit. Et donc réfléchissons un instant. Pierre vient de parler de l'héritage. Il vient de dire que nous avons un héritage éternel. Il vient de dire que nous passons par des épreuves. Et puis maintenant, il dit « c'est pourquoi ». « C'est pourquoi » est une invitation à l'action. C'est pourquoi. Tenez votre intelligence en éveil. C'est pourquoi soyez sobre. C'est pourquoi mettez toute votre espérance dans la grâce en Jésus. Pierre nous appelle ici à l'action. Il appelle les chrétiens qui étaient dispersés à l'action. Il nous rappelle que quand Jésus reviendra pour établir son royaume, l'espérance des chrétiens deviendra une réalité concrète. Combien de fois vous avez déjà entendu ou vous avez vous-même dit « espère en l'éternel, espère en l'éternel ». Oui, nous devons espérer en l'éternel. Mais ce n'est pas une espérance comme « espère quelque chose va peut-être arriver ». C'est une espérance comme « espère car quelque chose va arriver ». Car une nouvelle réalité va arriver. Si vous avez vos Bibles avec vous, tournez avec moi à Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. C'est très facile, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 1 au verset 7. Voilà la réalité qui nous attend. Voici. Apocalypse 1 verset 7. Voici. Il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra. Et même ceux qui l'ont percé et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Voici la révélation de ce qui arrivera. Jésus reviendra. Jésus reviendra pour prendre ses enfants, pour prendre ceux et celles qui ont mis leur confiance en lui et pour qu'ils puissent accéder à l'héritage. Et vous savez, parfois on entend « oh, on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve ». Mais en fait, si, on sait ce que l'avenir nous réserve. Lisez Apocalypse. Vous savez ce que l'avenir vous réserve. Et peut-être ce qui est souvent dérangeant dans la Bible, c'est que la Bible est claire sur tous les sujets. Elle ne laisse aucune ambiguïté, quel que soit le sujet. Parfois, ça peut déranger, ça peut me déranger, ça peut déranger notre société. Et tous les sujets sont clairs pour la Bible. Je vous en donne deux, par exemple. Est-ce que la Bible est claire vraiment sur le mariage ? Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pas d'ambiguïté, un homme, une femme, un mariage, une seule chair. Est-ce que la Bible parle vraiment de l'enfer ? Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Essayez de trouver un sujet, n'importe lequel. La Bible est claire sur tous les sujets. Et la Bible est claire sur le retour de Jésus. Un jour viendra où Jésus reviendra. Et toutes celles et ceux qui ont cru en lui et qui ont espéré en lui auront part à l'héritage qui est réservé au ciel. Donc en attendant, Pierre nous appelle à une vie sainte et à trois actions. Et je vais finir par ça. Quelles sont les trois actions par lesquels Pierre nous invite à vivre notre vie de chrétien dans le retour de Jésus, dans l'attente du retour de Jésus. La première, soyons sobres et gardons notre intelligence en éveil. La Bible est claire sur le fait que nous ne savons pas quand est-ce que Jésus reviendra. Mais nous devons être prêts. Et Jésus a fait plusieurs illustrations du royaume de Dieu. Mais il y en a une en particulier sur l'attente. Peut-être vous l'avez en tête, on trouve cette parabole dans Matthieu au chapitre 25. Et il s'agit de la parabole que Jésus raconte sur les 10 vierges. Donc 10 vierges qui vont courir vers leur époux. 5 ont pris leur lampe, mais n'ont pas pris de recharge d'huile. Et elles sont parties. Les 5 autres ont pris une recharge d'huile. Et elles sont parties. Puis, le texte nous dit que, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Donc les 10 vierges se réveillent, et les 5 qui n'avaient pas pris d'huile se rendent compte que leur lampe est éteinte, et elles demandent aux 5 autres de l'huile, mais c'est trop tard. Et donc celles qui n'ont pas pu remplir leur lampe d'huile n'ont pas réussi à retrouver l'époux dans la nuit, alors que celles qui avaient prévu, qui avaient préparé, qui étaient prêtes, ont trouvé l'époux dans la nuit. Et Jésus conclut cette parabole en disant « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alors, application concrète pour nous, comment veiller ? Ça veut dire quoi veiller ? Est-ce qu'on doit tous avoir une lampe avec de l'huile prête ? C'est une image, bien sûr. Mais je relève 3 choses que Dieu nous appelle à faire en attendant. Premièrement, rester proche de Jésus dans la prière, dans la lecture de la Bible. Deuxièmement, soyons actifs dans notre communauté, proches de nos frères et sœurs. Et troisièmement, soyons actifs dans la proclamation de l'Évangile. Veillons, gardons notre intelligence en éveil, soyons sobres dans l'attente du retour de Jésus. Donc première action pour nous, celle-ci, soyons sobres. Deuxième action, verset 14, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois. Encore une fois, ici, la Bible est claire sur l'ancienne nature du chrétien et la nouvelle nature du chrétien. L'ancienne nature guidée par le péché, la nouvelle nature guidée par l'Esprit de Dieu, dans la grâce de Jésus. Et il y a des choses que ta nature de pécheur te pousse à faire, te poussait à faire avant de rencontrer Jésus. Et il y a des choses que l'Esprit qui t'a racheté te pousse à faire, car Jésus est vivant et Jésus est présent. Et donc ta vie se traduit par un renouveau, par le fruit de l'Esprit. Ta vie se traduit par la patience, par la bonté, par l'amour, par la paix, par la vérité. Tout ça sont le fruit de l'Esprit qui te pousse à agir différemment. Ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois. Troisième chose, aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Voici la troisième action que nous sommes appelés à faire, nous aimer les uns les autres d'un cœur pur. Vous voyez, il ne s'agit pas juste de s'aimer les uns les autres. Il y a un moyen ici d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau. C'est parce que nous sommes nés de nouveau que nous pouvons nous aimer les uns les autres. C'est parce que Christ nous a aimés le premier que nous pouvons, à notre tour, aimer les autres. 2 points juste pour conclure. Nous voyons que dans l'attente de vivre pleinement dans la présence glorieuse de Dieu, et de bénéficier de cet héritage que Pierre décrit, nous sommes appelés à l'action. Nous ne sommes pas appelés à l'endormissement. Nous ne sommes pas appelés à nous dire « on a un héritage qui va arriver en attendant qu'il coule ». Nous sommes appelés à l'action, sachant que nous avons un héritage qui nous attend au ciel, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni perdre de sa valeur. Et donc nous sommes appelés, chrétiens, à témoigner de la bonne nouvelle de Jésus afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de ce même héritage. Cet héritage, il est pour celle ou celui qui place sa confiance en Jésus. et Dieu appelle chacun à le suivre. Et donc nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle, pour partager cet héritage avec le plus grand nombre. Voilà ce que Pierre a voulu dire aux chrétiens de Turquie, et voilà ce que Pierre nous dit encore aujourd'hui à nous qui sommes ici à Bruxelles. Je vais prier. Oui Père, merci à nouveau pour ta parole. Merci parce qu'elle nous éclaire. Merci parce qu'elle nous fortifie. Merci parce qu'elle nous sonde. Je te remercie pour le message de ce matin, pour la joie de savoir que nous avons un héritage qui nous est réservé auprès de toi, dans la présence glorieuse de Dieu. Un héritage qui ne peut ni se détruire et ni perdre de sa valeur. Et dans l'attente de recevoir cet héritage, Père, je te prie que tu nous aides par ton esprit à mener une vie sainte, à mener une vie d'amour les uns pour les autres, à mener une vie sobre, à mener une vie proche de toi et à mener une vie de témoignage de l'Évangile auprès de tous ceux que tu appelles à te suivre. Je te prie cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore chanter un chant et puis Lucas va...